Laurence de Kock, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure agrégée en lycée et chargée de cours en didactique de l'histoire à l'Université Paris Diderot. Vous avez publié en juin dernier un article dans Raison Présente intitulé « Ce que les nouveaux programmes d'histoire en lycée disent des réformes éducatives en cours ». Cette émission sera donc l'occasion de poursuivre nos analyses engagées depuis quelques mois sur les réformes profondes que l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, instaure au pas de charge, à la hussarde, à l'ensemble du système éducatif. Alors, ma première question, c'est, nous l'avions déjà signalé en juin, devant l'absence de transparence de la révision des programmes dans toutes les disciplines, et notamment ce qui va nous occuper aujourd'hui en histoire, pouvez-vous nous parler de deux choses, à la fois des méthodes mises en place lors de la révision des programmes et maintenant, depuis le 11 juillet 2019, des contenus à la fois en seconde, en première et en terminale?
Oui, alors sur la question des méthodes, il faut savoir que jusqu'ici, l'écriture d'un programme scolaire dans le secondaire prenait en moyenne 2 ans et demi. C'est ce qui avait été calculé et celle-ci a pris quelques semaines. Donc ça en dit long en effet du pas de course qui a été adopté par le Conseil supérieur des programmes. Donc pour faire très simple, un Conseil supérieur des programmes est mandaté par le ministre pour une réécriture, une refonte complète des programmes qui est censé être conforme à la réforme de structure des lycées. Pour cela, il mandate à leur tour, le Conseil supérieur des programmes mandate à son tour des inspecteurs et des enseignants qui travaillent quelques jours et qui font une proposition au Conseil supérieur des programmes, laquelle proposition est discutée entre guillemets avec des associations représentatives. Tout ça, encore une fois, en l'espace de quelques semaines, sans aucune transparence sur des allers-retours, c'est-à-dire sur des moutures provisoires, en fait, sur lesquelles on peut se prononcer. Et puis, ça se termine par une consultation factice des enseignants, généralement pendant les vacances. Donc, personne ne répond. Et alors là, le clou du clou, c'est quand même qu'on a eu la preuve que cette consultation à laquelle certains enseignants avaient daigné répondre n'est même pas remontée au Conseil supérieur des programmes qui avait donc déjà avalisé une mouture sur laquelle tout le monde avait donné son désaccord. Laquelle mouture a été présentée au Conseil supérieur de l'éducation? C'est une tuyauterie compliquée, la tuyauterie de l'éducation nationale. Et, chose assez inédite et historique, l'intégralité du Conseil supérieur de l'éducation s'est prononcée contre les programmes. Et donc, ils ont été adoptés. Voilà.
Là, les mêmes dysfonctionnements ont d'ailleurs été notés dans d'autres disciplines,
Absolument.
Je pense à la philosophie.
Voilà, en fait, toutes les disciplines de sciences sociales et de sciences humaines et sociales, on va dire, ont vécu la même chose. Je crois que ça s'est mieux passé dans les disciplines dites de sciences dures.
Oui.
Mais en sciences humaines et sociales, le veto a été, enfin le veto, si au moins il y avait eu un veto. Mais en tout cas, le front a été absolument consensuel.
Alors malgré ça, ces programmes...
Voilà, donc ces programmes ont été adoptés puisque tout le monde était contre et que de toute façon la consultation n'avait strictement eu aucun effet. Donc ils ont été adoptés. Alors à quoi est-ce qu'ils ressemblent ? C'est compliqué. C'est à la fois une simplification et un alourdissement. Alourdissement en termes quantitatifs. C'est-à-dire que ce sont des programmes en seconde et en première, et ceux qui arrivent en terminale prennent le même chemin, qui sont absolument énormes, boursouflés, je dirais même. Et ça, ce n'est pas une nouveauté Blanquer, il faut pas le charger de tout non plus. Ça fait quelques années que les programmes d'histoire sont comme ça. Pour des raisons assez compliquées, je peux pas trop rentrer dans le détail, mais la raison la plus simple et la plus compréhensible par le grand public, c'est que un programme d'histoire est censé un peu faire plaisir à tout le monde. Et donc, nous, on a beaucoup de gens auxquels faire plaisir, en fait. Parce que déjà, il y a 4 périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a ceux qui font de l'histoire politique, de l'histoire culturelle, de l'histoire sociale, de l'histoire économique, etc. Il y a des associations militantes, parce que l'histoire est une matière politique, on y reviendra, mais des associations féministes, des associations antiracistes, etc., etc. Et depuis une trentaine d'années, on le voit bien dans les archives, moi j'ai fait ma thèse là-dessus. Depuis une trentaine d'années, ces associations sont extrêmement actives pour demander un droit de regard sur les programmes. Voilà. Et comme le gouvernement, en tout cas plutôt le politique en règle générale, essaie de fabriquer du consensus, eh bien les programmes du coup tentent de donner une petite part de gâteau à peu près tout le monde. Mm-hmm. Alors ça explique le caractère énorme des programmes. Et puis la deuxième chose, et c'est pour ça que je parlais de simplification, c'est qu'en revanche, ce sont des programmes qui en reviennent à une historiographie, l'historiographie c'est la manière d'écrire et de penser l'histoire, qui en reviennent à une historiographie extrêmement ringarde, hein, un peu celle de des années 50, hein, presque, c'est-à-dire la plupart du temps événementiel, politique, sans aucune véritable possibilité de charge critique, ce qui fait la saveur de la discipline, quoi.
Et son intérêt, sa finesse.
Voilà.
Donc ce que vous reprochez, c'est la disparition aussi de certains domaines, sur l'histoire des femmes, par exemple.
Alors oui, lorsque les programmes, la première mouture a été, elle a fuité. Alors ça a été une histoire pas possible, hein. Franchement, c'était digne d'un Hercule Poirot, hein. La première mouture a fuité, elle a été rendue publique par le SNES, le syndicat SNES, qui n'en pouvait plus, de demander, justement, à y avoir accès, et puis que le CSP verrouille tout. Donc, ils ont rendu les programmes publics, et là, ça a été la sidération, disparition de l'histoire de l'immigration, ou quasiment, qui était quand même une part importante, hein, des programmes d'histoire jusque-là, et puis quasi-disparition d'une histoire des femmes. Donc, moi, j'avais fait une tribune dans Libé, c'était exactement il y a un an, d'ailleurs, qui avait fait scandale. Blanquer avait répondu en direct en disant « mais pas du tout, il y a de l'histoire de l'immigration ». Et comme par hasard, l'histoire de l'immigration était réapparue ensuite, elles avaient dû y retravailler quelques minutes. Et l'histoire c'était des femmes, bien. Ils avaient répondu, mais pas du tout, il y a des femmes dans les programmes, il y a des femmes, alors il y a Olympe de Gouges, donc il y a toujours cette héroïsation de femmes exceptionnelles, mais ce qui disparaît en revanche, c'est le fait d'avoir une histoire dite mixte, c'est-à-dire de parler des hommes et des femmes, y compris des hommes et des femmes ordinaires. Et pour la petite anecdote, j'avais été reçue à la DGC, c'est encore une autre tuyauterie, ça, direction générale de l'enseignement scolaire, pour, voilà, ils voulaient savoir un petit peu ce que je pensais des programmes. Enfin, ça, c'est vraiment histoire de calmer les associations les plus rebelles. Donc, mon association avait été reçue à la DGESCO et j'avais juste demandé, j'avais dit au gars, écoutez, je sais très bien que de toute façon, vous ne ferez rien remonter. J'ai juste une demande, elle est très facile, hein. Dans les préambules de programmes, au lieu d'écrire à chaque fois les hommes, vous écrivez les hommes et les femmes. C'est rien du tout, hein. Les préambules, hein, les hommes et les femmes. Et ben, même ça, ils n'ont pas voulu le faire.
Ça en dit long sur le non-rapport à l'histoire et à la pensée de ces rédacteurs.
Oui, c'est ça qui est, je crois, vraiment le plus affligeant. On a, dans le circuit d'écriture des programmes, une disparition complète des universitaires. C'est à la fois leur responsabilité aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'historiennes et d'historiens qui ne s'intéressent plus à ce qui se passe dans le secondaire ou dans le primaire, alors encore moins dans le primaire, là c'est parents pauvres, qui sont tellement pris aussi par leurs charges académiques et par leurs charges de travail que finalement bah, ils se disent, bon bah, voilà, on est déjà beaucoup à faire chez nous, donc on va pas trop regarder ce qui se passe ailleurs. Et donc de ce fait-là, ils ne font plus pression sur les concepteurs de programmes pour dire, nous avons droit aussi de regard sur ce qui doit être enseigné en amont, donc dans les cycles précédents, et le CSP en profite du coup pour les exclure quasiment du circuit d'écriture. Alors pas tous, hein, il y en a toujours un ou deux qui sont là, mais ceux qui sont les plus intéressants actuellement, et Dieu sait si la discipline historique est extrêmement active et en plein renouvellement. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire ce qui se passe en ce moment dans l'historiographie. On a vraiment de l'inventivité, de la créativité, des thèses, des jeunes historiens, historiennes qui publient des choses extraordinaires. Et tout ça, évidemment, ne passe pas dans le secondaire parce que ce ne sont pas des gens qu'on va consulter. Donc, on a un déséquilibre absolument croissant et indigne, à mon sens, entre des programmes complètement remplan-plan, pénibles, traditionnels et conservateurs, et une historiographie, une science historique, voilà,
et qui ne creuse cesse l'écart, de se renouveler.
Et l'écart voilà. Se creuse.
Ouais. Alors, dans la nouvelle architecture du lycée, quel sort est dévolu à l'histoire en termes d'horaire et de contenu, et du même coup, quel type d'histoire vous l'avez esquissé et attendu?
Alors, dans la nouvelle réforme du lycée, qui touche plus particulièrement, enfin, elle touche tous les trois niveaux, seconde, première, terminale, mais c'est surtout la première et la terminale qui sont impactées, comme on dit, puisque le bac passe en contrôle continu en première, hein, en histoire et dans d'autres disciplines aussi, mais ça, c'est absolument majeur. Hein. Il y a donc une organisation en tronc commun et spécialité.
Oui. Option.
Voilà. Alors, on appelle ça, voilà, spécialité. Bon. Donc, le tronc commun, alors ça dépend des filières. En technologique, il est réduit à 1h30 par semaine dans toutes les premières technologiques.
Alors qu'il était
minimum à 2h.
Oui, d'accord.
Et voilà. Et en filière
dite générale,
on est à 3h. Ça, c'est pour le tronc commun. Et pour la spécialité, alors la spécialité en termes horaires, je veux pas me tromper, mais c'est beaucoup plus. Mais la spécialité concerne vraiment une fraction des élèves de première qui ont choisi de faire leur spécialité qui s'appelle histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, et qui du coup se destine vers un bac à profil plus sciences sociales et littéraires. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne pour le tronc commun des programmes qui sont ceux que je décrivais tout à l'heure.
C'est-à-dire des
programmes très généraux, très remplant-plan, vraiment très pénibles. Et je vois pas comment ils peuvent intéresser les élèves qui n'ont pas, je veux dire, de tropisme spécifique pour l'histoire et la géographie. Mmh. Et en revanche, en spécialité, des programmes, alors qu'ils sont extrêmement ambitieux, extrêmement sélectifs, abstraits, mais qui sont passionnants.
Donc ça rallie un peu le suffrage des professeurs
et d'histoire. Voilà, et c'est ce qui explique malheureusement une certaine inertie aussi de quelques collègues contents de se voir valorisés, je comprends, requalifiés d'une certaine manière en enseignant, c'est vrai, une spécialité qui est particulièrement intéressante à enseigner. Le problème, c'est que derrière, évidemment, il se passe des choses, et parmi les choses qui se passent, par exemple, il y a
parle du lycée et du fonctionnement des cours dans le lycée, on est d'accord?
Oui, bien sûr. Alors, mais les cours en spécialité sont des cours, après ça vient de commencer, donc je peux pas parler à la place de mes collègues. Moi, j'en ai pas des spécialités, je l'enseigne pas. Hein. Mais sont des cours qui sont vraisemblablement hyper intéressants à préparer. Hein. Enfin, je veux dire, là-dessus, je crois que tous les collègues sont à peu près d'accord. Ils sont extrêmement exigeants aussi, intellectuellement. Donc, du coup, sans doute très difficile à mettre en œuvre dans le temps imparti avec des classes surchargées, etc. Bon, oui, des trucs qui sont structurels.
Minimum.
Voilà. Des trucs qui sont structurels au lycée. Voilà.
Par ailleurs, sont ouvertes qu'à 35.
Exactement. Par ailleurs, ces collègues aussi ont des élèves de plusieurs classes, puisque comme c'est une spécialité, voilà, faut que les gens comprennent aussi, vous avez 10 gamins de la première A, 10 gamins de la première B, 10 gamins de la première C, qui sont réunis dans une classe.
Voilà.
Donc, c'est un autre groupe classe. Voilà. Alors, encore une fois, pourquoi pas, ça peut être intéressant, tout ça, c'est pas forcément à balancer d'un revers de la main, mais ça veut dire aussi des difficultés pour les collègues en question à participer au conseil de classe et à avoir une réflexion collective sur une classe avec d'autres collègues, d'autres disciplines. Et ça, c'est un autre effet pervers de la réforme du lycée, c'est que ça met des disciplines en concurrence vraiment beaucoup. Et ça empêche un travail collectif. Or, dans le secondaire, le travail, s'il n'est pas collectif, il n'est pas efficace.
Oui, voilà. Bien sûr. Alors, vous avez co-signé avec Mathilde Larère et Guillaume Mazot un livre intitulé « L'histoire comme émancipation ». Où vous dénoncez la tendance conservatrice où un récit événementiel et réactionnel masculin et éculé se substitue à une histoire critique. Seriez-vous d'accord pour dire que le paradigme de l'école est aujourd'hui en train de changer, et alors que l'école était le lieu de l'enseignement de la critique, l'école serait aujourd'hui, maintenant, avec cette réforme, le lieu plutôt du bien parler et de la connaissance du patrimoine plutôt que de la critique?
Alors, je nuancerai juste un tout petit peu. Je ne crois pas que l'école ait été jusqu'à aujourd'hui vraiment l'espace de la critique. L'école a toujours fonctionné sur un paradigme qui est plutôt celui du consentement et de l'adhésion à un discours que de la critique. En revanche, il y a un paradigme et puis après, il y a des praticiens à l'intérieur de l'école. Et ce qui permettait d'introduire de la critique dans ce paradigme du consentement, donc ce qui mettait ce paradigme en tension, c'était la liberté pédagogique des enseignants et leur capacité à s'emparer d'un programme et à en faire un outil de critique. Ça, c'est en train de disparaître. Donc ce n'est pas que le paradigme se transforme, c'est que la mise au pas des enseignants fait qu'il n'est plus possible de le subvertir. Et ça, effectivement, c'est assez grave.
À quelles conditions diriez-vous, Laurence de Kock, qu'il est possible de faire de l'histoire en rationaliste et en démocrate ?
À la condition de remettre en avant la démarche de l'historien et pas simplement le fait de transmettre des contenus qui sont déjà là. La démarche de l'historien, c'est partir en quête d'un fait et avec comme horizon la vérité. C'est en ça que c'est rationaliste, la vérité. Et la vérité, elle s'établit, elle se dit pas, elle s'établit. Et pédagogiquement, si nous n'apprenons pas à nos élèves à établir la vérité, à établir les faits par le fait de trouver des sources, de les confronter, de les critiquer, eh bien finalement, notre vérité de prof ne sera pas supérieure à la leur.
C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Laurence de Kock, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Le prix de l'Union rationaliste sera remis cette année, le 16 décembre, à l'École normale supérieure, par notre président Antoine Triller, à Hervé Schneeweis. Je remercie Claire Levasseur et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission et je renvoie à notre site où vous pourrez retrouver toute notre actualité.